VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Bonjour, nos toutes dernières nouvelles. Au Burkina Faso, un seul des quatre anciens ministres de l'ex-président Blaise Compaoré, récemment interpellé pour des malversations présumées, a été placé en détention. L'ancien ministre des Mines, Salif Kabore. Les trois autres ont été remis en liberté. Pourquoi, Idrissa Sédoudia?
Le parquet de Ouagadougou s'est dit incompétent car ses affaires devraient relever de la Haute Cour de justice et cette instance n'a pas repris son activité depuis la chute de Blaise Compaoré. Seul l'ancien ministre des Mines, Salif Kabore, a été déféré pour des malversations présumées pendant qu'il était à la tête de la société burkinabé d'électricité. M. Kabore est réputé proche de François Compaoré, le frère cadet du président déchu. Depuis 10 jours, une quinzaine de cadres de l'ancien régime ont été interpellés. Un nouveau code électoral est aussi entré en vigueur. Il exclut des prochaines élections certains proches de l'ancien président. Ainsi, le CDP, ancien parti au pouvoir, a annoncé qu'il est entré en résistance contre cette politique dite répressive.
Toujours au Burkina Faso, les récentes déclarations de l'ambassadeur américain à Ouagadougou concernant le nouveau code électoral burkinabé et la nécessité d'inclure tous les partis dans les prochains scrutins continuent de susciter des réactions. Écoutons le député du Parlement de transition, Alexandre Sankara, au micro d'Idriss Fall.
Il faut que l'ambassadeur sache qu'on n'a pas voté une loi pour exclure les gens. Tous les partis peuvent participer aux élections. La loi vise des personnes qui ont soutenu le projet de modification de l'article 37. C'est assez clair. Et au sein du CDP, il n'y a pas que ceux qui ont soutenu le projet. Le CDP peut trouver des gens pour se présenter aux prochaines élections. Tous les partis peuvent participer aux élections. Deuxièmement, je crois que l'ambassadeur des États-Unis doit respecter aussi le choix du peuple burkinabé. C'est le peuple burkinabé, à travers ce que le peuple a envoyé au Conseil national de transition, ce sont les représentants de ce peuple-là qui ont voté la loi. Il faut respecter le peuple burkinabé. Il faut respecter ce que les représentants du peuple ont voté comme loi. C'est élémentaire.
Alexandre Sankara, député du Parlement de transition à Ouagadougou. En Guinée, l'heure est à l'apaisement après 2 jours de manifestations des partisans de l'opposition qui ont été sévèrement réprimés. Le point avec Anna Botson.
Le premier ministre Mohamed Saïd Fofana a appelé au dialogue pour parvenir à un consensus autour des échéances électorales. Réagissant à cet appel au dialogue, Sélou Dalène Diallo, chef de file de l'opposition, demande d'abord que la Commission électorale nationale indépendante annule son chronogramme électoral et mette fin à ses activités sur le terrain. Il a annoncé la suspension des manifestations jusqu'à lundi pour permettre à ses partisans de souffler un peu. L'opposition avait appelé à manifester contre l'insécurité après l'agression de son porte-parole le 4 avril et contre l'inversion du calendrier électoral par la CENI, qui a repoussé les élections locales à mars 2016 après la présidentielle fixée à octobre 2015. Les heurts entre manifestants et forces de l'ordre à Conakry ont fait au moins un mort et plusieurs blessés.
Au Sénégal, le mouvement citoyen Yonamar, plusieurs organisations de la société civile et Amnesty International ont décidé de combiner leurs forces pour exiger des autorités de la RDC la libération des militants arrêtés en mars dernier. Une pétition et des manifestations sont prévues dans plusieurs pays africains. Clermont Régibourg a joint Seydi Gassama, le directeur d'Amnesty International Sénégal.
Les Congolais sont toujours en détention au secret, sans avoir été inculpés formellement et présentés en juge, et sans qu'ils aient un avocat ni que leurs parents aient accès à eux. Évidemment, c'est une détention illégale, une détention au secret, contraire à la loi congolaise et contraire au droit international. Donc nous voulons mobiliser les opinions publiques en Afrique d'abord, mais aussi dans les principales capitales du monde, y compris Washington, pour exiger le 30 leur libération, pour mobiliser et informer les opinions publiques sur la pratique répressive du régime congolais qui est destinée à réduire au silence toutes les voix qui s'élèvent contre une modification de la Constitution afin de permettre au président Kabila de rester au pouvoir 20 années de plus parce que après 20 ans de pouvoir Kabila père, Kabila fils, il veut modifier aujourd'hui la Constitution pour encore s'éteindre au pouvoir. Et pour cela, il veut réduire ces jeunes au silence.
Est-ce que ça veut dire qu'enfin on a une jeunesse africaine consciente et soucieuse des principes démocratiques de leur pays?
absolument une nouvelle conscience au sein de la jeunesse africaine, et une jeunesse qui ne veut plus considérer la dictature comme une fatalité, mais qui est prête à l'affronter pour qu'en Afrique, on ne soit plus un continent où on parle de coup d'État, où on parle de violence et de guerre civile, mais un continent où on puisse parler de démocratie véritable, de bonne gouvernance, de paix et de développement.
Seydi Gassama, directeur d'Amnesty International, Sénégal.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Crise centrafricaine, le chef de la mission des Nations Unies en Centrafrique est passé hier devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Sur son passage à New York, écoutons le général Babacar Gaye.
Vous savez, j'étais venu devant le Conseil de sécurité présenter le rapport du secrétaire général, notamment dans la perspective du renouvellement du mandat de notre mission, la MINUSCA. Et cette occasion, bien sûr, je l'ai utilisée pour appeler l'attention des membres du Conseil sur d'abord les besoins pour compléter l'appel humanitaire qui a été fait en décembre pour la Centrafrique, mais également pour compléter le budget des élections qui manque à peu près à hauteur d'un peu plus de 20 millions de dollars, et également demander à ce qu'on se tienne prêt à financer le programme de désarmement, de démobilisation, qui sera certainement un des accords signés lors du forum de Bangui. Donc je suis venu exposer ce que nous avions fait et surtout demander à ce qu'on nous aide à aller de l'avant.
Le général Babacar Gaye, chef de la MINUSCA. Le forum de réconciliation de Bangui commence à partir du 27 avril. Les anciens présidents François Bozizé et son tombeur, Michel Djotodia, se sont rendus hier au Kenya pour apporter leur soutien au processus de réconciliation dans leur pays et signer l'accord de paix négocié à Nairobi entre les Antibalaka et les Seleka. Le point avec Mustapha Sabone, coordinateur de la Seleka, joint par Idriss Fall dans la capitale kenyane.
Ils sont bel et bien à Nairobi. Naturellement, c'est pour appuyer le forum inclusif de Bangui, appuyer en même temps l'accord de cessation des hostilités signé à Brazzaville.
Est-ce que les deux anciens chefs d'État ont paraphé quelque chose, ont signé quelque chose?
Ils ont signé la déclaration. Et le président Uhuru Kenyatta du Kenya aussi a signé. Ils apportent leur soutien, leur appui aux accords de Brazzaville et puis celle de Nairobi au Kenya.
C'est la première fois que Michel Djotodia rencontre François Bozizé.
C'est pour la première fois exactement.
Mustapha Sabone à Nairobi. Actualité américaine maintenant, les États-Unis apporteront une nouvelle aide humanitaire de 205 millions de dollars à l'Irak. C'est ce qu'a promis le président Barack Obama hier au premier ministre irakien Haider al-Abadi, ici à Washington. D'autres détails sur leur consultation avec Lionel Gaïma.
À l'issue des entretiens avec M. Haider al-Abadi à la Maison-Blanche, le président Obama a déclaré que les forces irakiennes sont mieux équipées et mieux formées qu'au moment de l'élection il y a 7 mois du premier ministre Abadi. Avec l'appui aérien des États-Unis, ses troupes ont reconquis environ un quart du territoire occupé l'année dernière par les combattants du groupe État islamique, a ajouté le leader américain. À la question de savoir si les États-Unis fourniront une aide militaire additionnelle à l'Irak, le président Obama s'est limité à dire que la coordination militaire s'améliore dans le but de permettre à l'armée irakienne de connaître du succès sur le terrain.
Maintenant, la minute économique, c'est avec Félix Yepassis Zembou.
L'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, UNPCB, est secouée par une crise sans précédent depuis novembre 2014. Et cette situation fait planer le doute sur la production de l'année 2015. Les dissidents accusent l'actuel président de l'Union, Karim Traoré, de détournement de fonds et de pillage organisé en complicité avec d'autres acteurs de la filière à des fins personnelles. Pour le Fonds monétaire international, la croissance économique mondiale est encourageante. Le FMI estime que le gros problème qui mine l'économie africaine est le manque d'énergie. Isabelle Adenauer est la chef de division adjointe du département Afrique au sein du FMI.
Vraiment, la capacité de production en Afrique aujourd'hui d'énergie ne s'est pas augmentée depuis 15 ans et ça, c'est au même niveau aujourd'hui du niveau de l'Espagne.
Le Cameroun, à travers le Conseil interprofessionnel du cacao et du café CICC, vient de lancer une initiative visant la promotion du café fabriqué au Cameroun en impliquant particulièrement les femmes dans les activités de promotion et de vulgarisation du label café du Cameroun. Dans cette perspective, le CICC annonce la tenue du 18 au 21 avril 2015 dans les localités de Douala et Melang dans le littoral et Koutaba et Fumbambe à l'ouest Sud-Est, des voyages d'échange entre les femmes gabonaises et camerounaises œuvrant dans la filière café.
Et pour terminer, le principal théologien du groupe Al-Qaïda dans la péninsule arabique tué par l'attaque d'un drone américain au Yémen. C'est ce qu'annonce aujourd'hui la filiale yéménite d'Al-Qaïda. Washington n'a pas officiellement confirmé sa mort. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info.